les écrans philosophiques, un cycle conçu et organisé par la Maison Populaire, le Collège International de Philosophie et le Cinéma de Méliès, en collaboration avec l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Enregistrement de la séance du mercredi 17 novembre 2010, à l'issue de la projection du film « Le Corbeau » de Henri-Georges Clouzot, France 1943, présenté par Thierry Vigier, professeur de philosophie à Bourges. Présentation suivie d'une discussion avec la salle.
Moi, je voulais partir d'une scène qui me semble nous est en un sens directement adressée. C'est l'avant-dernière scène dans laquelle Germain se trouve avec Denise. Le moment où il découvre cette lettre anonyme qu'il s'apprête à adresser. Et puis, scène qui se finit finalement avec cette prière de sa part. Elle lui dit « Si tu veux savoir la vérité, regarde-moi. » Et puis, il va dire « C'est inutile, je sais. » Il lui dit « Regarde-moi. » Et on a un gros plan. Bon, on a un gros plan, c'est-à-dire que ça nous est aussi adressé à nous. Hein. Si tu veux savoir la vérité, au fond, spectateur, regarde-moi. C'est aussi une question de cinéma. Voilà, et la question, c'est vraiment est-ce que je dois croire ce que je vois? Ou est-ce que je ne dois croire que ce que je vois? Qu'est-ce que je dois croire de ce que je vois? Qu'est-ce que c'est que voir? À quoi je peux me fier, quoi. De quoi ça témoigne, ce que je vois. Et c'est bien tout le problème qui traverse le film, quoi. À qui je peux me fier. De quoi témoignent les manifestations extérieures, d'attachement, à qui se fier. Et on voit bien que la question des lettres anonymes dans cette histoire a un effet évident qui est le délitement complet de la communauté, quoi. Parce qu'il y a un principe de défiance. On ne peut plus se fier à personne, quoi. On soupçonne tout le monde. Voilà, alors, si on se demande à qui on peut se fier, on essaye comme ça un petit peu d'énumérer, un peu d'analyser, on voit bien que nous-mêmes, on va soupçonner un petit peu tout le monde, plus particulièrement Marie Corbin, si on suit le film, le directeur d'école, pourquoi pas, Denise, Laura... finalement, le psychiatre, Vorzel. Bon, c'est ce qui semble le plus évident. C'est à interroger, au fond. Hein. Je vais essayer d'y revenir, mais... à qui se fier? On pourrait se fier dans une communauté, hein, une communauté qui fonctionne comme un microcosme. On le voit bien, c'est une petite ville d'ici ou d'ailleurs. C'est-à-dire, en fait, c'est toute ville. C'est là, mais ça pourrait être ailleurs, partout ailleurs en France, quoi. À qui se fier? Alors se fier à l'institution politique, parce que j'y reviendrai, c'est la première chose qui apparaît à l'image, mine de rien, en ruine. C'est un château sur le sommet. Bon, l'autorité politique dans le film, c'est le maire, c'est le sous-préfet. Bon, ils sont quand même pas reluisants, quoi. Et puis quand même, dans la réunion qui se passe dans le bureau du sous-préfet, il cherche une solution, même une apparence de solution, propose le maire, hein, faisons semblant de faire quelque chose, mais faisons quelque chose, quoi, soit une apparence d'action. Et finalement, ce qu'il propose, qui est proposé par le substitut du procureur, mais avec approbation du sous-préfet, hein, des autorités politiques, c'est... eh bien, de se débarrasser du cas Germain, hein, de se débarrasser de la victime. Au fond, c'est la victime qui fait problème. C'est pas l'agresseur. Vous voyez, en 1943, c'est pas l'agresseur qui fait problème, fondamentalement. Hein. faut se débarrasser des victimes. Vous voyez, les juifs, les roms, tout ça, quoi. Bon, alors, pas l'autorité politique. Pas non plus l'autorité scolaire. Bon, d'une part, on va douter un petit peu quand même du directeur, un petit peu quand même. Et puis, l'autorité scolaire, on peut la détourner. Je veux dire quand même, le corbeau, il va réussir à dicter ses propres lettres à tous les autres membres, hein, des différentes institutions, à tous les notables, au fond. Alors, dicter au directeur d'école, vieux débauché, hein, il relève la tête, mais ensuite il écrit, quoi. Et tout le monde écrit pendant des heures et des heures. Ben oui, parce que une fois que l'autorité politique est en ruine, ben, l'autorité scolaire elle-même, au fond, elle ne s'autorise que de cette autorité politique. Vorzay, au fond, il dicte avec le substitut, avec lui. Bon, autorité judiciaire, hein, on en a parlé implicitement aussi. Enfin, bon, l'autorité, l'institution médicale, c'est terrible ce qu'on en voit. Très vite, tout de suite, c'est terrible. On arrive dans cet hôpital civil. Il y a une manière de traiter les malades, les mourants, de chercher à se montrer un tibia qui sort de 10 cm d'une jambe, enfin des choses terrifiantes. Bon. Voilà. Alors, à qui se fier au final? Bon. Je fais remarquer qu'on a une solution à la fin. On a un corbeau. On a un corbeau. Mais je fais remarquer que, bon, déjà, si on regarde la façon dont les gens sont filmés, très souvent, regardez le sous-préfet quand il fait son discours, là, fait son oraison funèbre, comme ça, hein, filmé en contre-plongée, avec les cheveux lissés en arrière, comme ça, là, il donne comme des coups de bec, là. Tous les personnages en noir avec des voiles autour, tout ça, hein, qui s'agitent. Vous voyez, quand d'un coup tout le monde se retourne vers Marie Corbin, il y a un effet de volière, quoi. Vous voyez, tout le monde en noir comme ça, qui froufroute. Enfin, dans... Bon, je veux dire, même le docteur Germain, il a, je veux dire, ses yeux comme ça, très très noirs, pétillants, avec, vous voyez, cet air très, très sec comme ça, ces mouvements brusques. Il a quand même des allures d'oiseau. Et bien d'autres encore. Et puis, il y en a des noms d'oiseaux qui circulent. Je veux dire que c'est le sous-préfet qui parle de la... Hein, comme la chouette qu'on fixait sur les portes des granges. Bon. Mais on a aussi une petite grue. Je crois même, à mon avis, qu'on a un Germain... Pas un Germain Monate, mais un Germain Ménate. Qui est justement pris, vous savez, c'est un oiseau qui répète. Et si on regarde, il est pris dans l'histoire de répétition, quand même, Germain Ménate. Bon, ça vous semble peut-être forcé si je dis ça, mais c'est étonnant parce que si on regarde la circulation des mots, par exemple, il y a un synonyme, très vieux synonyme de corbeau. C'est Corbin. Donc, la Marie Corbin, la Marie Corbeau. Mais au reste, la Marie Corbeau, elle a une sœur. C'est quand même Laura Vorzay. Donc, son nom de jeune fille, c'est Laura Corbin, Corbeau. Vous voyez, c'est... Et puis, je ne sais pas, on pourrait aussi... vous savez, il y a cette scène très étonnante, pendant la procession funéraire, là, où on a le plan, hein, est pris de l'intérieur du, vous avez à l'intérieur de la couronne funéraire qui se trouve sur le cercueil. Là. Bon, c'est un drôle de point de vue, hein, le point de vue d'un mort comme ça. C'est le point de vue d'un mort. pas Dieu est dans le coup peut-être, mais c'est le point de vue du corbillard, vous voyez. Mais c'est étonnant parce que j'ai regardé corbillard, ça vient de corbilla. Corbilla, c'est le petit corbeau. Voilà. Et puis quand même, il y a quelque chose de très étonnant, c'est qu'il y a une métaphore en chirurgie, par analogie avec le bec du corbeau, on appelle un corbeau un scalpel. Bon, alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui fait ce personnage peut-être si positif quand même de Germain, il a à voir avec ça, mais quand même, je vous signalerai que, enfin, c'est lui d'abord qui est anonyme, à moitié anonyme, qui cache son identité. C'est un personnage toujours en noir, il est endeuillé, il vit absolument dans le deuil. Et puis, si on réfléchit un petit peu, mais qui en réalité a envoyé, n'a pas envoyé, mais qui a écrit la première lettre? C'est pas Laura en fait. Vous savez bien, c'est le docteur Germain. Lui, il a signé une lettre qu'il n'a pas adressée. Mais c'est aussi lui qui signe, pour le coup, qui signe la dernière lettre. Celle qui vaut enfermement de Laura. Bon. Très étonnant, hein, toute cette question du des corbeaux. Parce que c'est bien ça l'affaire. C'est pas la question simplement de savoir qui est le meurtrier, qui est le... Bon, c'est pas ça. La question, c'est que ce qui se passe, c'est que tout le monde devient corbeau. Tout le monde devient corbeau. Et il le dit, Vorzel. Vorzel, tout ce qu'il dit, il faut le prendre à la lettre, il dit la vérité. Toujours. Bon, c'est un expert, un menteur, un très grand menteur, un très grand pervers, donc c'est un expert en vérité. Quoi. Un expert en désir, c'est un psychiatre. Bon, bref, en tout cas, qu'est-ce qu'il dit? Mais il dit que, en 2 mois, 830 lettres, même une personne qui aurait beaucoup de loisirs ne pourrait pas écrire ça. En lettre capitale. Bon. Donc tout le monde écrit. Même Denise écrit, on le voit là. Bon. Alors, le problème, c'est à qui se fier. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette logique de la défiance? Défiance de la perte de foi, quoi. Alors, puisqu'il s'agit de perte de foi, moi, j'ai eu un recours, moi aussi, j'étais perdu, du coup, j'ai eu un recours, c'est Saint-Augustin. Quoi. Voilà. Saint-Augustin, parce qu'il y a un petit texte de Saint-Augustin, un opuscule qui s'intitule « De la foi dans les choses qu'on ne voit pas ». C'est un texte étonnant dans lequel, au fond, il répond à saint Thomas. Hein, toi qui dis « Je ne crois que ce que, hein, je ne crois que ce que je vois ». D'ailleurs, je veux dire que c'est la position... En un sens, c'est quand même, en grande partie, c'est la position, hein, on pourrait se dire, mais pour sortir de la défiance, pour sortir du discrédit, etc., il faudrait être rationnel, il faudrait être un peu plus positiviste, s'en tenir aux faits. C'est exactement la position qu'incarne Germain. C'est quelqu'un qui s'en tient aux faits. C'est un scientifique. C'est pas un psychiatre, lui, c'est pas un spécialiste de la psyché, quoi. C'est un spécialiste du cerveau. Il s'en tient au fait, comme il le dit, alors il ne va pas à l'église, il n'est pas croyant. Lui. Il ne suit même pas le cercueil. Lui, il ne croit pas. C'est même, à mon avis, son grand problème. Il ne croit pas, vous voyez, ce rapport à... Voilà, il a un rapport à ce qui est, quoi. Et ce qui est, bah, c'est ce qui est. C'est ce qu'il dit. Mais les gens sont ce qu'ils sont. Un honnête homme est un honnête homme, un coureur est un coureur, et une... Il s'arrête. Et c'est Laura qui prolonge. Une fille est une traînée, je crois. Denise pardon. Denise, pardon. Voilà. Bon. En même temps, c'est un homme seul. On voit bien que cette question de ce rapport de défiance, lui aussi, il est dans une défiance formidable. Et on voit bien que cette histoire de défiance, elle a à voir avec le fait qu'il ne peut pas aimer. S'il refuse, il le dit, hein. Il déteste les enfants aussi. Il le dit. Il est hanté par la question des enfants. D'ailleurs, il les tue quand même, c'est la première image qui apparaît. Hein. Quand il apparaît, lui, avec du sang sur les mains, hein, il fait toujours le choix de la mère. Dans 6 semaines, c'est 3 fois le même résultat. Bon, c'est-à-dire, il fait le choix du présent contre le choix de l'avenir. Et la question des enfants, je n'oublie pas Saint-Augustin, je vais y revenir, hein, mais c'est pour bien. La question des enfants, c'est pas seulement la question d'avoir un enfant pour soi, bien sûr, c'est la question d'avoir un enfant pour soi, si je puis dire. Mais dans quelle mesure on peut avoir un enfant pour soi? Non, c'est un enfant qu'on met au monde, c'est-à-dire que, du coup, ce qu'il faut quand même créditer, c'est la possibilité qu'il y ait un monde dans lequel on puisse vivre, un monde commun. Autrement dit, c'est pas la question de l'enfant, d'ailleurs, ce qui est omniprésent, ce sont les enfants. Les enfants. Est-ce qu'on peut encore créditer notre monde d'un avenir commun? Est-ce qu'on peut encore soutenir un désir en commun, un désir du commun? Avec quel désir de communauté on peut essayer de soutenir encore de notre foi? Cette foi, c'est le mouvement même du désir. Voilà. Et lui, il n'y croit pas. Il s'y refuse. Je reviens à Augustin. Qu'est-ce qu'il dit, Augustin? Il dit, voilà. Concernant mes sentiments, bon, je peux les connaître intérieurement. Mais concernant les sentiments d'autrui, comment je peux connaître les sentiments, les désirs d'autrui? Les sentiments d'autrui. Dire, ben, je peux les connaître parce qu'ils se manifestent, hein, à travers des gestes, à travers des paroles, à travers des actes, à travers des expressions. Très bien, mais qu'est-ce que je connais en fait? Des gestes, des paroles, des mouvements du visage. Pour que vraiment j'y voie des sentiments, et des sentiments d'amour, par exemple, pour que j'y voie une confiance, hein, qu'un mouvement de confiance me soit adressé, un mouvement d'amour, d'amitié, il faut que déjà je regarde ces gestes, ces paroles, ces expressions comme des signes. Et ensuite, il faut que je les interprète, ces signes, et que je les interprète comme signifiant une intention bienveillante, signifiant l'amour, signifiant l'amitié. Voilà. La relation à l'autre, elle est suspendue à ça. Autrement dit, vous voyez, qu'est-ce qu'une preuve d'amour? Ben, une preuve d'amour, on sait bien, enfin, est-ce qu'une bague, est-ce qu'un restaurant, quel geste exactement une preuve d'amour? Ça ne se décide pas tout seul, c'est la preuve, elle n'est pas inscrite dans la chose ou dans l'acte. Ça suppose que l'autre voit quelque chose, interprète. Il peut ne rien voir du tout, ça arrive. Ouais, je veux dire, c'est ça, enfin bon, ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans qu'on est ensemble, mais on se rend compte qu'on vit sur un malentendu. On interprétait mal. Vous ne voyez pas ce qui s'y trouvait. Bon, voilà. Bon. Mais alors, en même temps, je dis, qu'est-ce qu'une preuve d'amour? Une preuve d'amour, ça n'est jamais qu'un témoignage. Et qu'est-ce qu'un témoignage? Un témoignage, hein, on y vient bien sur la question du témoignage, là, hein, dans ce film. Là aussi, un témoin, déjà, c'est quelqu'un qui demande à ce qu'on croit. D'ailleurs, c'est pour ça que dans un tribunal, ils jurent. Si on produit un raisonnement en mathématiques, il n'y a pas besoin de jurer que c'est vrai. Parce que le raisonnement mathématique se suffit par lui, il administre sa preuve, quoi. Alors que quand je témoigne, bien, je jure que ce que je dis est la vérité. C'est-à-dire quoi, jurer, au fond, c'est l'idée aussi que je promets, hein. Voilà, je m'engage, j'engage ma parole. Autrement dit, croyez-moi sur parole. Ce à quoi je m'engage aussi, c'est à soutenir toujours ce même témoignage. Au fond, ce à quoi je m'engage, c'est à garantir une forme d'identité. Je vous garantis, au fond, une identité, au moins dans ma parole. Je dirai la même chose dans 5 ans, dans 10 ans. Croyez-moi. Mais oui, croyez-moi. Bon, il faut que je sois crédible. Il faut que je sois crédible. Et si jusqu'ici, on a pu penser que j'étais un menteur et même un fiefé menteur, en ce cas-là, peut-être que mon témoignage sera considéré comme quelque chose qui n'est pas crédible du tout. Alors que peut-être qu'à ce moment-là, je dirais la vérité. À l'inverse, peut-être que jusqu'ici, apparemment, je n'ai jamais été parjure, tout ça. Je vais faire un témoignage qui se trouvera être un faux témoignage. Bon, autrement dit, on est pris dans des rapports de foi. Dès qu'on raconte quelque chose, j'étais tout à l'heure dans le café d'en face, implicitement. Si vous me dites d'ailleurs, non, c'est pas vrai, je ne te crois pas, je vais dire, mais si, je te le jure. Bon. Il a raison, hein. Je crois que Augustin jusque-là a raison. Alors lui, ensuite, bien sûr, vous voyez bien sa stratégie, hein, c'est de dire que, ben vous voyez, il va plus loin encore, pardon, il dit quelque chose qui est très fort, il dit, voilà ce qu'il dit. Il dit, bon, alors, soit effectivement, on s'en tient à l'idée qu'on ne croit que ce qu'on voit. Mais en ce cas, on y perd l'amitié, on y perd l'amour, finalement on y perd notre propre humanité. Soit, on accepte de se reconnaître comme un être de foi, engagé dans des rapports de confiance, de fidélité, fidesse. On crédite l'autre aussi d'amour, d'amitié. Voilà. Soit on se reconnaît comme des êtres de foi et on recouvre son humanité. Bon. Alors bien sûr, son idée ensuite, c'est de dire, ben ouais, puisque si tu veux vraiment être un homme, eh ben, il faut que tu te reconnaisses comme un croyant. Et tu crois donc en des choses que tu ne vois pas, eh bien, il n'y a qu'un pas pour croire en Dieu. Je n'irai pas jusque-là. La suite du texte me convainc beaucoup moins. Hein, sur son argumentation sur Dieu. Et au reste, dans le film, Dieu. Hein. Bon, c'est la foi qui sauvera le monde. Vous vous rappelez de ce personnage qui parle à Roland au guichet de la poste là, ce personnage qui achète 300 timbres. 300 timbres, c'est extraordinaire. Hein? Alors qu'on sait que les timbres, ça va servir à adresser des lettres anonymes qui vont engendrer quoi? Le discrédit, justement. Hein? La défiance. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà, c'est la foi qui sauvera le monde. Il le dit en plus à la poste, au guichet de la poste, dans le lieu névralgique, hein, du discrédit, là où ça se distribue la défiance généralisée. Bon, la foi dans le film, la foi religieuse, hein, la foi religieuse dans le film, on voit bien, bon, c'est le petit rendez-vous de Germain et de Laura Vorzet, Germain lui ayant adressé une lettre dont on comprend qu'elle est à Céleste, c'est-à-dire Laura en réalité s'étant elle-même adressée une lettre à Céleste, si on comprend la fin du film, dans l'église, bon, c'est un petit peu profane quand même, et puis vous vous rappelez que toute la communauté est rassemblée autour de cette très belle figure de curé, un peu comme ça, comme dans une peinture du XVIIe, il fait un beau prêche, etc. classique. Dieu nous a adressé un signe. Et au moment où il dit Dieu nous a adressé un signe, il y a justement un signe qui tombe, voilà, de la coupole, c'est-à-dire hein, ce qui symbolise le ciel, c'est une aide du corbeau. Bon, donc, c'est pas de la foi, certainement, mais pas religieuse. La solution n'est pas du côté du religieux. Alors, bien sûr, de la foi, dans quoi? Dans quelque chose. Il s'agit de créditer la vie, je l'ai dit, de créditer un désir de communauté. Hein, et ça passe par l'enfant. Tout le film, au fond, si on regarde, c'est la présence des enfants, elle est absolument insistante. En fait. Il y a une douzaine de scènes qui se réfèrent aux enfants, qui les mettent en scène. Et ils ont intérêt à se manifester, ces enfants, parce que quand même, il s'agit quand même de les mettre à mort. C'est, je veux dire, c'est une question de vie ou de mort. Peut-être on pourrait réanalyser juste le début du film. Peut-être vous voir quelque chose. C'est possible?
Oui.
Ouais. Bon. On va avoir hein, au tout début la petite ville d'ici ou d'ailleurs, là. Et on va partir comme ça d'un point de vue très élevé, hein, un petit peu à distance du château en ruine, on va voir, hein, qui surplombe la petite ville de Saint-Robin. Bon, et puis, c'est comme si on allait rentrer ensuite, hein, la caméra va descendre comme ça, et on va se retrouver à l'intérieur du cloître. Et c'est comme si, vous voyez, on choisissait... petite ville, comme ça, vous voyez, un exemplaire, et puis, hop, on va rentrer dedans. Voilà. On va s'infiltrer à l'intérieur. Mais ce que je veux faire aussi remarquer, hein, c'est que... Voilà, au-delà de ce procédé, hein, il y a aussi l'idée, vous voyez, on choisit une petite ville, un exemplaire, un cas en France. Et vous voyez bien qu'on a en même temps une image qui est très... Pensez aux affiches de propagande pétainiste. C'est vraiment un petit village français, vous voyez, tel que la propagande pétainiste. On est parti du château en ruine, vous voyez, l'autorité politique. On glisse à l'intérieur du cloître. On a un jeu de vis-à-vis, vous voyez, une mise en regard de l'autorité politique et du cloître, du cimetière, vous voyez où on en est. Et puis, on marche comme ça dans le passage latéral. Vous entendez comme ça, faire comme des petits pas. Voilà. Et il y a ces deux grilles qui s'ouvrent toutes seules, comme s'il y avait un fantôme qui sortait. Il y a vraiment une histoire de fantôme. Ouais. Avec, voilà, avec l'église, tout ça, les toits, là, on a un point de fuite, on part dans le ciel, on s'y retrouve, là, hop, on s'envole, avec les petits fantômes. N'oubliez pas quand même c'est cette question de la mort des enfants. Quoi. Et des morts en général, hein, en 43. Bon. Voilà, avortement, je vais. Avortement. Oui, avortement. Le sang sur les mains, tout ça. Bon. On a toute la question des différentes générations qui sont engagées.
Mais hein, oui.
Et l'enfant.
Non.
Moi,
qui est
docteur,
vous n'avez pas fait ça. J'ai fait, honnêtement. Si vous tenez à avoir un petit-fils, dans 6 ou 8 mois, pas avant, hein. Je vous demanderai peut-être d'en faire un autre.
Ouais. Il a déjà eu du mal cette fois. Il se prend des parents voisins.
Voilà, hein, il a déjà eu du mal cette fois, il se prend des parents voisins. Donc la médisance est déjà là, le rapport de défiance est déjà là. Il y a des tas de choses que je passe. Simplement, vous voyez bien que, là aussi, hein, très... vraiment dans la campagne. Bon. Juste, ce qui m'intéresse, c'est juste la scène là, comme ça, qui suit, c'est-à-dire les enfants, vous voyez, qui vont sortir, eux, par une grille aussi, qui grincent aussi, exactement comme les deux grilles qui s'ouvrent. Ouais. Mais alors, eux, vous voyez, une espèce de pulsion de vie. Les pulsions de vie en même temps, vous voyez, qui immédiatement, voilà, trouve dans ce monde tel qu'il est sa destination. Voilà. Bon, bah, je vais arrêter là, je ne veux pas. Voilà, je te remercie. Bon, alors, ouais, toute cette présence des enfants, là, ils ne vont pas arrêter de se battre. Hein, ils ne vont pas arrêter en voie du ballon, hein, la scène. Avec d'autres enfants encore, ça va être la scène où Germain va rentrer à l'école, là, et où le directeur va lui demander s'il peut venir soigner Denise, et puis il va se prendre un ballon dans la figure. Hein. On voit bien qu'il y a quelque chose, hein, il faut lui battre, ils font payer quelque chose, imaginairement, symboliquement. On voit bien que ça reprend d'ailleurs M. le Maudit. Voilà, il y a toute une lutte comme ça à mort. Jusqu'à ce qu'il accepte les enfants. Ça, c'est la progression. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il accepte quelque chose du désir des autres. Quoi. Et du désir du commun. Bon. Alors, en même temps, jusqu'à, on pourrait dire, si on est avec Saint-Augustin, on pourrait dire jusqu'à ce qu'il crédite un peu l'avenir, qu'il ait foi un peu dans les enfants, foi en l'amour. Sauf que, on ne vit pas sous le régime de la grâce, on vit sous le régime de la loi. Et qu'il ne suffit pas comme ça de croire, pour former, c'est peut-être l'espérance de l'Église, mais enfin une communauté des cœurs, ça ne fonctionne pas comme ça. Et quand même le vrai problème, c'est qu'à un moment, pour pouvoir se confier à quelqu'un pour que les témoignages prennent leur valeur, pour qu'un monde se reconstruise, il faut quand même que les gens puissent attester de leur place, puissent s'inscrire dans une institution. Il faut que la communauté, le désir de la communauté, puisse s'objectiver dans une institution. Qui va nous apparaître après extérieur, mais qui au fond n'est jamais que la manière dont nous transférons au fond nos désirs communs. Ça suppose à un moment qu'il y ait quand même des institutions, des autorités, au fond, qui nous représentent légitimement. Et pour nous représenter légitimement, eh bien, elles émettent un certain nombre de textes qui passent par tout un jeu de signatures. De même que nous, nous signons. Très curieux, hein, la signature d'ailleurs, c'est à la fois un mot et en même temps c'est comme une empreinte du corps, vous voyez, c'est quelque chose s'arrête à nous, quoi, hein, voilà, on atteste d'une identité, d'une responsabilité, voilà, on s'en tient à ce qu'on a signé, on peut se référer à ça, à ce qu'on a signé, sauf que notre signature, la signature de mon chèque par exemple, elle ne fonctionne, elle n'a de valeur que parce qu'elle-même au fond elle peut s'autoriser d'un ensemble d'autres signatures de l'institution bancaire, etc. Bon, et finalement, dernier ressort, c'est l'autorité politique, c'est l'institution politique qui signe. Bon, or c'est bien ça qui est en ruine. Bon, mais au reste, ça ne le serait pas. En ruine, j'ai pensé à faire un rapprochement un peu Saint-Augustin, Derrida, très, très rapidement, et un texte de Derrida sur l'autobiographie, réfléchi sur la signature de Nietzsche, tout ça, mais un texte qui s'ouvre par une réflexion sur la déclaration d'indépendance des États-Unis. Et la question, c'est. C'est qui signe en dernier ressort? Qui a signé cette déclaration d'indépendance? Bon, Jefferson, tout ça, les représentants et Jefferson. Très bien. Mais au nom de qui pouvait signer en droit? De personne en droit. Puisque justement, c'est sa signature qui institue le droit. Ouais. On va dire qu'il signe au nom de la communauté américaine. Mais la communauté américaine, elle n'existe pas jusque-là. C'est un état de fait. Qui fait partie de la communauté? On n'est pas encore dans du droit, on est dans le moment instaurateur du droit. Donc pour pouvoir signer le texte fondateur du droit, ouais, il faut qu'il se donne un droit qui n'existe pas, vous voyez, en quelque sorte, il faut que la signature s'autorise une espèce d'antériorité comme ça, fabuleuse, quoi, vous voyez. Il y a un coup de force, en fait. Au fondement même du droit, il y a un coup de force. Et ce coup de force, c'est celui d'une communauté. Alors ensuite, voilà, cette communauté s'institue. Le désir commun s'institue. Mais à travers un coup de force, il faut bien le dire. À travers tout un jeu de signatures. Qui, en retour, d'ailleurs, va pouvoir exclure, peut-être, des gens de la communauté, etc. Bon, donc vous voyez, hein, il faut de la signature, mais en retour, hein, il faut la communauté. Et pour qu'il y ait de la communauté, il faut qu'il y ait une institution capable de signer au nom de la communauté. Vous voyez ce que je veux dire, cette espèce de... Ça se mord la queue, en sens. Bon. Alors, quelle solution on peut trouver? C'est la question dans le film, c'est quelles sont les solutions possibles? Bon, il y en a trois, je crois, qui fonctionnent ensemble. Déjà, il y en a une qui semble très nette. C'est quand même un film incroyable, je trouve, en 43. C'est... Déjà, quand il n'y a plus de droit, et il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, eh ben, comme dit la mère, qui fait le ménage, fait vraiment le ménage, la mère de François, hein, eh ben, comme elle le dit, vous n'avez pas le droit de faire ça, lui dit Germain, elle lui dit, mais je le ferai sans droit. De toute façon, il n'y en a plus du droit, au sens, hein, un droit positif, légitime. Et donc la solution, à la fin, c'est quoi? C'est quand même de trancher la gorge, on fait marrer, moi, de, oui, de trancher la gorge d'un homme pensé en 43, d'un homme vénérable, aux cheveux blancs, qui parle avec une voix chevrotante, qui est doux, un expert en communauté, pervers, la source même de ce qui pervertit la loi. Ouais, bah la solution à la fin, et elle n'est pas condamnée, hein, on la regarde partir, c'est quand même celui-là pour lui trancher la gorge. Alors ça ne suffit pas, hein, parce que, voilà, c'est hors du droit, alors ensuite, il faut faire droit, part tout seul, hein. Mais à côté, il y a des enfants, vous avez vu dans la rue, 3-4 enfants qui jouent au dé. Bon. Ouais, bien, c'est, hein, c'est créditer l'avenir, hein, un désir, pas dire un désir d'avenir, quelle horreur, mais un désir d'une communauté à venir, voilà, on peut dire ça comme ça. Hein. Créditer le hasard, hein, la chance. La possibilité d'un événement, quelque chose qui surgit. Tout n'est pas donné. Et puis la troisième chose, je crois, c'est... Ça a à voir avec une scène qui est quand même très curieuse. C'est la scène dans laquelle le psychiatre Vorzé apparaît pour la première fois. Déjà, il nous parle de nous, il nous dit quelque chose de très étonnant. Alors, c'est la scène dans laquelle il rentre chez lui, du congrès, vous savez, de psychiatres. Voilà. Et puis, voilà, il va y avoir cette histoire de lettre anonyme, là, et vous rappelez ce qu'il dit, j'ai noté ce que c'est. Voilà ce qu'il dit. Voilà, il dit, personne n'écoute, hein, les psychiatres. Autrement dit, lui aussi, hein, s'adresse à nous, allez voir, il parle du public. Personne n'écoute celui qui parle, Dieu merci. Parce que si on l'écoutait, ce serait une immense tempête de rigolade. Pour prendre ces communications au sérieux, il faudrait un public. Il faudrait un public de malades. Et encore. Bon. Hein? C'est pas tout à fait ma conclusion. Non. Non, mais c'est intéressant. Non, parce qu'il y a toute une question de l'infirmité, tout ça. Alors, c'est très fort, au fond, hein, quand même. Mais, non, ce que je veux dire, c'est que il s'adresse à nous, il ne s'adresse pas à nous pour rien, parce que, ouais, cette scène, si on pense à ce qu'on comprend à la fin, en réalité, donc semblerait que voilà, ce même psychiatre dicte des lettres à Laura. Bon, dans cette scène-là, je veux dire, la bonne au début, hein, Laura l'envoie porter la valise de son mari dans la tour, donc elle disparaît, donc ils sont plus que deux. À lire quoi ? Une lettre qu'ils ont eux-mêmes écrite. Donc ils jouent la comédie. Pour quel autre personnage ? Mais c'est nous, les autres personnages. Oui. C'est fait pour nous. On est nous-mêmes acteurs du film, quoi. Autrement dit, c'est aussi... elle est là, la troisième solution, on va s'en dire. Hein. C'est quand même aussi nous, dans... Peut-être, je ne sais pas, on pourrait dire quelque chose comme dans la... la foi dans le cinéma, qui passe aussi par les formes de crédulité, mais pas seulement. La foi dans le cinéma, c'est aussi notre foi et notre désir qui fait que le film et ce jeu d'acteurs se soutient. Et au fond, c'est aussi cette foi-là qui fait que, et ce désir-là qui fait que eh bien, le cinéma nous donne à réfléchir le réel. Voilà. Merci à vous. Bon, peut-être... Alors, je dois passer les micros, c'est ça ? Tu le fais ?
Merci Thierry pour cette très belle analyse. Est-ce que tu pourrais juste revenir sur la scène que tu as mis en valeur tout au début, à savoir la scène du regard, parce que c'est vrai que ça s'adresse à nous, c'est nous aussi qui la regardons pleurer, qui regardons, puis au fond dans ces yeux-là on projette bien ce qu'on veut, parce que on ne sait pas en effet quels sont ses sentiments. On a envie peut-être de croire qu'elle est sincère et qu'elle l'aime vraiment. En même temps, elle a déjà été manipulatrice, donc on ne sait pas. Et il semblerait que c'est quand même une scène charnière où lui-même, qui était hanté par ses fantômes, qui était sec, il change un peu. Donc c'est-à-dire que tout n'est pas figé. Il n'y a pas du tout de vision ni optimiste ni pessimiste. Mais il n'y a pas l'idée que, de toute façon, je ne sais pas, le monde est pourri, les gens sont comme ils sont. Ben justement, même Germain... lui donne tort, les gens ne sont pas comme ils sont puisque lui-même va être changé, puis il va accéder à ça. Mais qu'est-ce que ça signifie au fond, regarde mon regard, regarde mes yeux et puis tu verras la vérité. Donc ça voudrait dire que est-ce que dans ce regard il y a le signe du réel, ou est-ce que ça signifie que finalement je projette, c'était une fiction, mais je projette quelque chose et puis ce que je projette, je vais le faire exister. Enfin, je me demande s'il n'y a pas cette solution-là aussi qui consiste un peu à reprendre ce que tu dis, c'est-à-dire on donne foi à quelqu'un et puis c'est ça qui fait exister, et le sentiment et la relation amoureuse, et peut-être que c'est un pari qui repose sur rien, mais j'ai l'impression que lui, il semble qu'il a été ébranlé par ce regard. Regard plein de larmes, il dit je sais plus. Alors qu'avant il était plein de certitude. Bon. Mais pourquoi au fond ça se passe entre lui et lui, parce que qu'est-ce qu'elle a pu lui renvoyer? Enfin, je me suis demandé là, parce que dans ce regard on voit pas grand chose, enfin on voit ce qu'on a envie d'y mettre. Est-ce que donc tu dirais au fond que ce lien de confiance, cette fois, ce qui fait le monde commun, comme tu disais, c'est juste une fiction, enfin c'est une projection de ce qu'on a envie d'un pari, et puis après ça fait communauté, ou est-ce que tu dirais qu'on accède, je sais pas, à quelque chose de réel si on voit vraiment le regard de
l'autre? Je crois qu'il accède à quelque chose de réel, parce que tu as raison, c'est quand même le moment pivot. Hein, jusqu'ici, au fond, bah, il doute de qui? Il doute d'elle, justement, hein, quand même. Hein, bon. Il doute de celle qui lui est le plus proche, au fond, quand même, hein, qui, dont il attend un enfant, etc. Bon. Et quand même, c'est à partir de ce moment où... Alors, c'est quand même un mouvement du désir, bon, qui en décide absolument. En tout cas, je sais pas, j'ai envie de dire que sa raison cesse de jouer contre son désir, ou en tout cas, voilà. Bon. Et il y a un moment de rencontre. Et c'est quand même à partir de ce moment-là que, ben quand même, qu'il va pouvoir aller vers la vérité, de Merva. En tout cas, c'est ce qui se passe dans le film. Quoi. Donc, oui, je sais pas. Bien sûr qu'il y a de la projection, bien sûr. Bon, mais je crois qu'en même temps, c'est quand même une rencontre. Quoi. Alors, on a, oui, il n'y a pas de garantie absolue, puisque en plus, après, il va lui-même douter à nouveau, etc., et nous faire douter de ce que nous on a cru voir. Bon, donc, voilà. Il faut bien qu'à un moment le réel se remette sur ses gonds, quoi. Bon, mais je sais pas, j'en dirais ça. Je crois qu'en tout cas, il y a quelque chose qui se passe à partir du moment où il y a quelque chose du désir qui peut un peu rencontrer l'autre, quoi, un peu s'effectuer au lieu d'être cette espèce de clôture et d'enfermement, quoi, qui est mortifère, qui est complètement mortifère pour lui, quoi. Et quand même, je ne sais pas exactement comment ça se passe. En tout cas, je suppose que, je veux dire, on en est passé par tellement d'hypothèses, etc. Il est dans un état de tel. C'est déjà un homme désespéré, au fond, mais alors là, vraiment, bon, que je ne sais pas, ce serait un tel désastre, au fond, pour lui, de ne pas croire là que peut-être vaut mieux faire quand même, vaut mieux croire, parce que sinon, il n'y a vraiment plus rien à croire, quoi, de notre humanité, enfin, je crois quelque chose comme ça, quoi. Et qu'en même temps, du coup, effectivement, alors, bon... il y a une rencontre quand même, hein. Je veux dire, bien sûr, c'est toujours une question d'interprétation, les manifestations du désir chez l'autre, tout ça, mais elle ne lui donne pas des coups non plus, enfin bon, c'est... il y a un espace de l'interprétation possible, disons, là. Bon. Donc en tout cas, on voit bien que c'est, là, il y a un mouvement du désir et une rencontre de l'autre qui finalement donne quand même une espèce d'assise dans le réel. Quoi. Et à partir de là, il va y avoir la possibilité que la vérité se fasse quand même. Quoi. Bah, je dirais ça. Je ne sais pas si c'est très...
Non, mais c'est vrai que la scène est saisissante. Et, ouais. Hein, ce que tu dis... mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est quand même de l'ordre un peu du patch, cette rencontre.
Ouais, ouais.
Parce que c'était un moment un peu indécidable et il y a même quelque chose d'assez beau, là. Mais moi, je ne m'attendais pas du tout parce qu'à chaque fois, il y a ce jeu d'interprétation, des prix. Je me suis dit, encore là, on va être encore détrompé un peu plus tard. Et là, il semblerait que non, il y a quelque chose.
Mais en plus, là, elle n'a pas de sa classe sociale, elle n'a pas sa culture, elle n'a pas... Je veux dire, celle qui lui correspond le plus, en un sens, c'est plutôt Laura Vorzel, quoi.
Mais elle dit « je sens ». Je n'ai peut-être pas ton intelligence, mais je sens les choses.
Voilà.
Et elle est dans ce sentiment, et on sent qu'elle, elle parie aussi. Elle fait confiance. Enfin, elle est capable d'aimer, malgré...
Elle est dans une passion manifeste, alors que Laura Vorzel est plutôt... très belle, elle est très sensuelle en fait, mais dans quelque chose qui est beaucoup plus en même temps retenu, beaucoup plus. Alors en même temps, on comprend qu'il y a une espèce de passion absolument dévorante, mais je sais pas, c'est intéressant. C'est quand même, il y a une rencontre, on voit bien, il sort de sa classe sociale pour le coup. Alors, elle a raison de lui dire que c'est un bourgeois. C'est une infirme, il y a des moments, je trouve que Ginette Leclerc, elle n'est pas absolument belle quand elle est sur son lit, à un moment, une espèce de visage un peu comme ça, un peu de mérou, comme ça, un peu, bon, c'est pas...
Voilà. De paix avec des petits points de suspension, même.
Oui.
Ah non, filmé
comme ça, oui, bien sûr, ouais, bien sûr.
Non, pour aller dans ton sens, ce qui est frappant dans la mise en scène de ce moment, c'est que il y a une espèce de mise en abîme de l'image elle-même. Hein. C'est-à-dire que du point de vue de la photo, par exemple, ces gros plans-là sur le couple se détachent absolument de la façon dont ils sont filmés en plan plus lointain. Donc ce qu'on nous montre aussi, c'est que la confiance s'instaure par l'image. Voilà. Et que du coup, ce qu'on filme aussi, c'est un instant où on est hors langage. C'est-à-dire qu'on a pu échanger et tout à coup, hors du langage, il y a un moment de vérité qui surgit et qui passe par autre chose, quelque chose qui est par-delà le verbe. Or, évidemment que ça fait sens à l'échelle du film dans son ensemble et sur les effets de tromperie, de duperie, de chausse-trappe dans lesquels le langage nous engage, y compris pour le personnage principal, parce qu'effectivement, c'est quand même l'histoire d'un type qui arrive enfin à écrire une lettre jusqu'au bout et à faire en sorte qu'elle ait un destinataire, et cette lettre est parfaitement contre-productive, à côté de la plaque. Enfin, est-ce vraiment juste que cette femme soit internée à la fin du film? Or, il n'arrive pas à temps pour arrêter le transfert. Enfin, il va avoir lieu. Il n'arrive pas non plus à temps pour parler au criminel ou l'arrêter, puisque de fait, il est tué. Il y a un côté comme ça sur l'impuissance du personnage qui renvoie à d'autres formes d'impuissance évoquées dans le film. Mais voilà, pour moi, ce qui va dans le sens de ton analyse, c'est vraiment que y a ce rapport à l'image qui est mis en scène par la rupture photographique et qui montre bien que par-delà le langage, il y a une vérité possible, qui est la vérité du rapport humain, fondée sur cette confiance qui nécessairement excède les mots. Tous les mots dans le film étant de l'ordre de la tromperie, de la duperie. Voilà. Ce qui renvoie par ailleurs dans les effets de miroir que tu évoquais entre le film et son époque, ce qui est très frappant, c'est que ça raconte aussi l'histoire, puisque tu parlais d'effet de signature, enfin, l'histoire d'un type qui se réconcilie avec lui-même et qui du coup se réconcilie avec sa propre identité. Enfin, c'est pas pour rien qu'il signe à la fin. Il réintègre un nom. Voilà. Il s'est cantonné à transformer un prénom en nom, et puis il y a un moment où ça ressurgit et où du coup il va pouvoir assumer publiquement au sein de la communauté son identité véritable. Et évidemment, pour moi, ça renvoie à la situation de la France. C'est-à-dire d'être obligé de porter une forme de nom d'emprunt, et d'état d'emprunt, mais pour trahir et cacher sa vérité profonde, jusqu'à un jour envisager de la retrouver, de renouer avec elle, à condition d'en être passé effectivement par un certain nombre de mises au jour, de mises au clair, sur les mensonges qui constituent la société sous Vichy. Voilà. Donc il y a effectivement pour moi une lecture métaphorique extraordinairement forte et provocatrice qui rend complètement sidérant le fait que ce film soit sorti sans difficulté, probablement parce que la commission de censure était aussi stupide que certains des personnages qui avaient
c'est pas, ouais, c'est pas, juste, moi je trouve, par rapport à ce que tu dis, moi ça me semble aussi très juste, cette question des gros plans qui fonctionnent effectivement comme des photographies. Là.
C'est les studios hardcore. Hein.
Ah, absolument, oui. C'est aussi très intéressant par rapport à Germain, parce que si on regarde, il y a deux choses vraiment dans le film. Il y a trois éléments qui circulent vraiment. Il y a les lettres, bien sûr. Il y a les enfants. Et sinon, c'est Germain. En fait, je veux dire, les mouvements de caméra, le plus souvent, ils sont liés au déplacement de Germain, qui se déplace très vite, tout ça. Les autres personnages sont rarement filmés comme se déplaçant, etc. Ouais, Germain, on n'arrête pas de le suivre. C'est lui qui quand même assure le mouvement, qui est quelque chose du désir, tout ça, même si bon, il n'arrive pas à s'orienter. Voilà. Et le fait qu'effectivement, voilà, il n'arrive pas à s'orienter, au fond, la rencontre se fait effectivement dans cette espèce de moment arrêté, comme ça, photographique. Là aussi, je crois que c'est effectivement, esthétiquement, c'est assez pivotal aussi. Enfin, on revient, quoi. Oui, alors sur l'histoire de la commission de censure. C'est très étonnant ce qui s'est passé, en fait. Hein, c'est pas une histoire de commission de censure. Il n'y en a pas eu du tout, même, de commission de censure. Pour une raison très curieuse, c'est que... c'est qu'en fait, la firme qui produit ce film, la maison de production, c'est la Continentale. La Continentale, c'est la maison de production qui a mis en place Goebbels. Qui voulait, bien sûr, dominer aussi l'ensemble de la représentation cinématographique et imprimer la marque nazie. Quoi. Et Goebbels va charger quelqu'un qui s'appelle Graeben de faire fonctionner cette Continentale en France. Et Graeben va... Voilà, il va conditionner la reprise du travail cinématographique qui est complètement arrêté, il a tout pouvoir, hein. Il va la conditionner à des signatures de cinéastes, il y en a quand même beaucoup qui sont restés là, de scénaristes, je crois que 6 cinéastes au moins doivent signer, il y a Jacques Becker, et chacun doit signer pour au moins 3 films. Il se trouve que Clouzot travaille sur le scénario, je crois, du dernier des 6, c'est un immense succès. Et il se rend compte, dans le dernier 6, il y a des femmes nues, tout ça, pas de censure maintenant, puisque c'est la Continentale Donc ça passe pas par la commission de censure vichyste. Et il se rend compte de ça, il va faire l'assassin à Bito 21, et puis il va directement négocier à Grebel la possibilité de faire ce film. Et du coup, il fait effectivement un film qui ne serait pas du tout passé si ça avait fonctionné dans les circuits français, parce qu'évidemment, il aurait été censuré. Mais comme il passe par la Continentale, que c'est la firme allemande, quoi, bon, Continentale France, bah, du coup, il n'y a pas de censure du tout. Bon, il est devenu entre-temps directeur du département scénario, parce que ça marchait très fort ce qu'il avait fait. Greben, l'historien du cinéma, signale, indique enfin, qu'en réalité, même si on en a accusé longtemps, à part c'est le fait, bon, peut-être discutable, ce que dit comment il s'appelle Tavernier, mais le fait qu'il a accepté de devenir directeur du département scénario pour la Continentale France. Peut-être se discuter, mais à part ça, il n'y a rien qui puisse en quoi que ce soit lui être reproché. Au contraire, il a plutôt aidé pas mal de personnes. Voilà. Par contre, la sortie du film, c'est très étonnant parce que il y a eu des lettres anonymes, des tracts qui ont été diffusés, beaucoup. Alors, certains, je crois d'ailleurs. Enfin, si vous voulez, condamnant ce film, pourquoi ? Et notamment en provenance du PC, quoi, du Parti communiste, parce que disant que c'était un film qui cherchait à dénigrer les Français, présenter la France comme une espèce de population absolument sordide, quoi, voilà. Et que c'était un film collaborationniste. Au point qu'après la guerre, il a été jugé, condamné, je crois, il a été 6 semaines au dépôt, et puis. Il a été condamné à ce que jamais il ne puisse filmer. Quoi. Il ne devait plus jamais pouvoir tourner un film. Quoi. Et puis il y a eu un certain nombre. Il a été accusé de trucs terribles. Sadoul aurait écrit, c'est Tavernier qui rapporte ça, ayant fait des rapprochements entre le corbeau et finalement l'esprit de Mein Kampf, tout ça. Enfin, c'est quand même terrifiant, effectivement. Tavernier a raison de le souligner. Enfin, je veux dire, dire ça en 1945, c'est quand même. Alors qu'on voit bien que c'est vraiment pas ça qui se passe dans le film. Moi, c'est le film de résistance le plus fort que je connaisse. Enfin, bien sûr, il y a Renoir, il tout ça, mais c'est quand même fait à l'extérieur. C'est pas pareil, c'est pas cette intensité, cette densité-là. Quoi. Bon, et puis finalement, comme il y a quand même beaucoup de cinéastes, d'autres scénaristes, de techniciens qui ont fait des lettres pour lui, disant à quel point, en fait, il a été autorisé à refaire, à tourner à nouveau. Quoi. C'est assez étonnant.
Juste une remarque sur le tous corbeau. L'ironie géniale, c'est de faire en sorte que l'assassin à la fin soit vraiment un corbeau. Parce que les voilages de la veuve sont absolument similaires aux voiles de Marie, enfin la religieuse.
Ouais, dans cette... Marie Corbin. Ouais. Voilà.
Et du coup, voilà, la fausse coupable et la vraie coupable finale, mais qui venge. Sont absolument associés par la mise en scène et le travail de la photo.
Ouais, oui.
Et ça renvoie effectivement à cette idée que tout le monde est corbeau potentiel, y compris celui-là même qui tue le corbeau.
Oui, ouais, tout à fait. Il y a beaucoup de choses dans le film d'ailleurs, hein, beaucoup de petites choses qui nous sont intéressées. Je ne sais pas moi, je veux dire, pour vérifier que quelqu'un est malade, lui faire dire 33, 33, 33, je ne sais pas. Par exemple, là, je ne sais pas, il y a des tas de choses, le film fourmille de choses comme ça.
Et puis le fait d'avoir découvert il n'y a pas longtemps l'Enfer, donc qui est
ouais.
Le César du meilleur documentaire l'an dernier, éclaire, si j'ose dire, un certain nombre de recherches formelles que fait Clouzot déjà dans ce film-là. Je pense en particulier au moment où Marie fuit chez elle, et où il y a deux, trois plans absolument sidérants d'audace et de liberté d'invention plastique. Notamment un où elle s'enfonce dans la profondeur de champ et où on a un effet de surcadrage par la lumière de son corps projeté, mais c'est vraiment,
ouais,
c'est
ouais.
Vraiment une mise en abîme du cinéma. Quoi.
Ouais,
en ombre chinoise, sur le mur lointain, c'est totalement arbitraire, c'est extrêmement beau plastiquement. à l'intérieur d'une scène qui paraît a priori totalement rudimentaire en termes de récit, quoi.
Ouais, une dimension là qui est quand même le moment le plus expressionniste du film, ouais, c'est manière ça. De, hein, de contraste hein, très très fort, des angles très forts, etc. C'est très, bon. Très, très... Voilà. Je... Vous avez d'autres questions ou...
Personne ne veut partir, mais on va quand même te remercier chaleureusement. Merci.
Merci.